Because I love music. It's in my head. I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George. I might leave out number letter F, you know? I might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Intégral Miles Davis, donc poursuite de l'œuvre de Miles Davis. Alors chez Blue Note, il va se retrouver en bonne compagnie puisqu'il y aura auprès de lui les fidèles comme J.J. Johnson au trombone, McLean qu'il a récemment récupéré au Birdland, également Gil Coggins, donc l'ami intime de Jackie McLean, de Sugar Hill. Puis après, donc, il y aura donc Oscar Pettiford et Kenny Clarke à la basse. On avait quitté Miles donc avec la version de Woody and You. On va retrouver donc la deuxième prise de cette version, composition donc de Dizzy Gillespie, Woody and You, du 9 mai 1952. Old and You, donc par le Miles Davis Sextet. On va poursuivre donc cette émission, effectivement, avec cet enregistrement en Blue Note. Alors, il a une particularité, ce Blue Note-là, parce que figurez-vous qu'il Pour des raisons techniques, il a été enregistré en mono. Et ensuite, pour une meilleure vente, on l'a passé en ce qu'on appellera une pseudo-stéréo. C'est-à-dire que tout se ressemble, mais en fait, on a les deux canaux qui sont identiques. Voilà, c'était ça aussi au début de Blue Note. On va donc bien sûr poursuivre avec ce que Miles préfère, c'est les ballades. Évidemment, il n'a pas oublié qu'il est un peu le roi de la ballade à cette époque-là. Et il va donc reprendre le thème « How deep is the ocean ?» mais il va le prendre avec une lenteur telle qu'on a du mal à percevoir l'émotion qu'il a voulu mettre dedans. Et puis, dans ce morceau, on peut dire qu'on va peut-être découvrir le pianiste Gil Coggins.
Thank you.
How Deep Is the Ocean. Donc, je vous parlais de Gil Collins parce que, pourquoi ? Bien parce que c'est un pianiste qui aura eu une carrière très très brève, en fait, découvert par amitié avec donc Jackie McLean. Il va commencer avec Miles Davis, donc, et notamment au Birdland, et puis il va se produire ce qui va se produire. Il va poursuivre un peu avec Jackie McLean, un tout petit peu avec Miles Davis l'année suivante, et puis au bout de 2 ans, il va totalement disparaître de la musique, il va quitter volontairement la musique pour devenir agent immobilier. Par conséquent, un pianiste pourtant qui n'était pas négligé, ni pas négligeable d'ailleurs, parce qu'il voulait constater, il avait parfaitement compris son rôle d'accompagnateur en intercalant des phrases très courtes entre les phrases du solo de Miles Davis, et ceci avait beaucoup séduit la critique à l'époque. Alors, le point culminant de la ballade de cette version de Blue Note, ça va être la version de Day Earl Stockholm, que, évidemment, Stan Getz avait sublimé l'année précédente quand il était donc en Suède. Ici, on va retrouver cette fois-ci donc Miles Davis dans une autre version tout aussi belle de cette ballade, Dear Old Stockholm. Thank you. Day All Stockholm, donc de Miles Davis, par Miles Davis plutôt. Et il faut dire que cette ballade obtient vraiment cette saveur, peut-être parce que pour cette fois-ci, eh bien Miles a accepté qu'à la fois Gigi Johnson et McLean, Jackie McLean, prennent un solo. Dans les autres ballades, eh bien il se réserve à la part du lion. Par conséquent, les deux cuivres sont mis à deux côtés pour l'instant. Alors on va reprendre un thème, parce qu'il faut bien reprendre des thèmes aussi, que Miles avait interprété avec notamment Jackie McLean dans l'album précédent Prestige Dig. Ici, il va lui donner le titre de Donna et on va avoir droit cette fois-ci à deux versions parce que Bob Woodstock a décidé que même si Miles n'aime pas trop avoir deux versions d'un même thème, lui pense que parfois il le faut. Ça permet aussi, on va le dire, d'arriver à peut-être permettre de, avec deux morceaux d'en faire un seul. Ce ne sera pas le cas parce que Blue Note, Alfred Lyon, c'est pas le même genre que Bob Woodstock. Par conséquent, on va enchaîner les deux versions de Donna, donc de ce 9 mai 1952. Miles Davis, je vous disais que donc Donna avait été enregistrée sous le titre de Dig avec Jackie McLean. Veuillez excuser cette erreur grossière de ma part. C'était avec Sonny Rollins, bien sûr. Deuxième version donc de Donna.
Thank you.
Donna, deuxième version, donc dans laquelle effectivement McLean prend un très beau solo. Il a bien raison parce que pour le thème suivant, Yesterday's Ballade, donc il va se faire allumer par Miles Davis. Parce que figurez-vous que, bien sûr, il n'a que 20 ans, Jackie McLean. Et comme il va en faire part à Miles, en studio pratiquement, il va lui dire « Écoute, non, ce morceau-là, je ne connais pas, je suis trop jeune ». Il va s'attirer les foudres de Miles parce que Miles lui fera valoir que lui, à 20 ans, il bossait jour et nuit pour apprendre les morceaux et qu'il ne peut pas admettre que, ayant donné sa chance à McLean, celui-ci ne soit pas en capacité de jouer tous les morceaux. Alors McLean va dorénavant apprendre le morceau par cœur, solo compris, le solo de Miles. Il l'interprétera à plusieurs reprises, mais il déclarera que plus jamais, il ne dira à quelqu'un qu'il est trop jeune, parce que cette fois-ci, le courroux de Miles lui avait servi de leçon. Yesterday, par Miles Davis, qui va clôturer la session Blue Note. Yesterday du 9 mai 1952. Alors, je vous précise la date. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette année 52 sera une année noire pour Miles Davis. En effet, on est au mois de mai, comme je vous le précise, et par conséquent, jusqu'à la fin de l'année, plus rien. Plus de contrat avec les maisons de disques, plus aucun enregistrement. Et dans les clubs, eh bien, on ne le sollicite pas outre mesure. Donc c'est un peu la période de vache maigre, on va dire. Et puis Miles, eh bien, se rend bien compte qu'il n'est plus au mieux de sa forme et que par conséquent, il comprend aisément qu'on ne l'appelle plus aussi fréquemment que précédemment. Et il va donc à la fois solliciter Alfred Lion, Blue Note, mais ce ne sera que pour 1953, pas avant. Et même Bob Woodstock, le patron de Prestige, eh bien, reste sur ses réserves. Et par conséquent, il faudra attendre le mois de janvier 1953 avant que Miles retourne en studio. Il a tellement tiré le cordon d'alarme chez Prestige que Woodstock va décider de lui donner une nouvelle chance. Et il était prévu donc de réunir en All-Star à nouveau pour un nouvel enregistrement pour Prestige. Et Miles, bien sûr, était maître d'œuvre en la matière. Il va donc faire appel à Sonny Rollins. Il avait été prévu de deuxième ténor Jimmy Heath, mais le besoin manquant et d'argent de Charlie Parker va faire que Miles va faire à nouveau appel à Charlie Parker. Alors, c'est un peu compliqué parce que Parker est sous contrat chez Mercury. Par conséquent, il ne peut pas jouer chez Prestige. On va trouver une astuce. On va donc changer le nom de Parker. Il va s'appeler donc Charlie Chan. Et c'est ainsi que Parker va se retrouver donc aux côtés de Miles pour cet enregistrement du 30 janvier 1953. Alors, il est d'autant plus perturbé, Parker, que lui, c'est un altiste. Mais Woodstock a décidé qu'il y aurait deux ténors. Par conséquent, Miles fallait dire, écoute, Charlie, moi je veux bien que tu viennes jouer avec les difficultés que ça présente, mais tu ne pourras pas jouer de l'alto, tu vas devoir jouer du ténor. Alors ceci va évidemment perturber Charlie Parker, d'autant plus que à cette époque-là, son trompettiste Red Rodney vient de se faire serrer par les flics pour, évidemment, consommation d'héroïne. Et évidemment, Charlie Parker, tout le monde le sait, son passé n'est pas glorieux de ce côté-là, ce qui fait qu'il a vraiment l'impression que lui aussi va être inquiété. Alors c'est vrai qu'il a quelque peu abandonné la dope pour l'alcool, mais l'alcool d'une manière tellement conséquente que, eh bien, on dira, est-ce vrai, moi j'y étais pas bien sûr, que pratiquement avant chaque intervention sur un concert ou en studio, il avait besoin de s'enfiler, il n'y a pas d'autre mot, pratiquement trois quarts de vodka. Voilà, c'était donc ainsi que Charlie Parker va se trouver près de Miles. Ils vont donc commencer la séance avec ces deux difficultés, et puis une troisième va se rajouter. Comme quoi, quand rien ne va, rien ne va. Le preneur de son des studios va leur indiquer que, eh bien, ils ont beaucoup discuté en studio, qu'il commence à se faire tard, et que de toute manière, lui, à 17h30, il s'en va. Par conséquent, il leur dit, il y aura donc un autre technicien à 18h, car on ferme à 18h, mais lui n'a pas le droit d'enregistrer. Ils vont donc commencer, pour se mettre un peu dans l'ambiance, de faire ce qu'ils savent, évidemment en prenant une composition de Monk, ce sera « Well, you need not », mais elle n'ira pas au bout. L'ingénieur du son leur déclare que non, on ne peut pas, que ça ne correspond pas du tout à ce que souhaite Woodstock, par conséquent, on va abandonner. On va donc en prendre une autre, et toujours on va faire appel à une compo de Monk, et cette fois-ci ce sera « Around Midnight ».
Thank you.
Round Midnight, donc par le groupe de Miles Davis. Il faut dire que ce groupe, il est pourtant constitué de pur talent, puisqu'il y a Charlie Parker, qui, faut-il le dire, dans ce morceau-là, a pris le deuxième solo, donc au ténor. Et peut-être l'avez-vous constaté, mais Charlie Parker, à un moment, doit lâcher prise. Il revient au thème parce qu'il est paumé et il va faire des fioritures autour. Mais il n'y a pas que lui qui est paumé, hein, parce que Miles aussi, pas mal de notes loupées, des phrases non terminées. Donc vraiment un morceau très chaotique, dont peut-être le seul qui s'en sort à merveille, c'est l'autre ténor, c'est Sonny Rollins. La rythmique, elle est composée de Walter Bishop Jr., donc au piano, Percy est à la basse, et un nouveau batteur, Philly Joe Jones. Voilà, c'était la compo du groupe. On va poursuivre cette fois-ci avec un thème qu'on n'enregistrera que le lendemain d'ailleurs, parce que le studio, non, ce soir, le 30 janvier, terminé. On n'en parle plus, donc le preneur de son a décidé que ça suffisait. Par conséquent, il faut revenir, et le lendemain, on va attaquer donc avec le thème Compulsion. Alors Miles est là, et encore une fois, est peu en forme, et c'est peut-être lui qui sera le révélateur de cette séance très chaotique, parce que Parker devait s'attaquer à son nouvel instrument sur les tempos rapides. Il doit prendre un solo après Rollins, mais ce n'est pas le meilleur solo qu'il va prendre. Et encore une fois, c'est Rollins qui va vraiment sauver le thème-là, Compulsion.
We'll be right back.
Compulsion, donc la compo de Miles Davis de ce mois de janvier 1953. Et effectivement, Charlie Parker ne prend même pas de solo. Même sur des tempos rapides, il est au ténor, c'est pas vraiment sa spécialité. Et par conséquent, il préfère ne pas intervenir. Alors ceci ne plaît pas du tout, mais pas du tout, à Bob Woodstock. Et il va en faire la remarque à Miles Davis. Et Miles Davis veut quand même lui montrer que Parker, c'est quand même Parker. C'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un à qui on va dire « pousse-toi de là parce que t'es pas bon ». Donc il va décider de terminer la séance, puisqu'il faut terminer la séance, avec une compo qu'il va intituler tout simplement « The Serpent's Tooth », la langue de serpent. Est-ce une manière de se venger de Bob Woodstock? On ne le saura jamais. Ça ne m'étonnerait pas quand on connaît Miles Davis. Toujours est-il qu'il va, Bob va lui imposer deux versions parce qu'il faut vraiment avoir ce qui se fait de mieux pour pouvoir terminer cette séance. Et afin de montrer à Bob que Charlie Parker, c'est quand même Charlie Parker, il va donc faire deux versions et on va commencer par la meilleure, celle où Charlie Parker se montre à son avantage dans un tempo relativement rapide, parce que sur la deuxième version qui est prise sur un tempo médium qu'on écoutera donc la semaine prochaine, eh bien Charlie Parker, là non plus, n'est pas à son avantage. Donc pour terminer cette séance, on va revenir à la version numéro 2 dans de The Serpent's Tooth avec une mise en avant cette fois-ci du talent de Charlie Parker. Thank you.
Thank you.